Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Amen. Amen, amen, amen. Regardez avec moi Matthieu 11, 28. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te prions afin que tu éclaires notre intelligence, que tu éclaires notre cœur. Saint-Esprit, je te demande de moindre pour parler la vérité de ta parole. Je te demande également que nos cœurs soient ouverts, que notre intelligence soit rapide, que notre réflexion soit profonde, afin que l'on saisisse la vérité, parce que cette vérité que tu nous donnes a la puissance de faire de nous des gens libres, Seigneur, tels que nous le sommes déjà à la croix, dans le nom de Jésus. Amen. Matthieu 11, 28, qu'est-ce qu'il nous est dit? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, s'il y en a qui se posent des questions, mais est-ce que Dieu veut que l'on marche dans la vie en portant sa croix? Oui, il y a une certaine croix qu'il veut que l'on porte. Mais ce n'est pas en étant abattu par les problèmes, ce n'est pas en étant chargé. Ce n'est pas ce que la religion nous dit que c'est. Parce que clairement, si Dieu voulait que l'on soit terrassé par les problèmes, abattu, qu'on passe notre vie, il ne nous aurait pas donné ce verset. Il nous est dit ici, Jésus nous dit, « Venez, 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 vous qui êtes fatigués et chargés. » Ce verset nous dit clairement que ses disciples devraient vivre, passer dans la vie, en respirant la vie et en ayant la joie de vivre. Et très honnêtement, plus je connais la parole, plus je connais mon Seigneur, plus je vois que c'est vrai et que c'est réalisable dans ma vie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avec le temps qui passe, je me dis, Seigneur, merci parce que je vis nettement plus légère qu'avant. J'ai beaucoup plus de vie en moi, la vraie vie, celle qui contient la paix, celle qui contient la joie, celle qui contient l'espoir. Je l'ai beaucoup plus qu'il y a 10 ans quand je le connaissais moi. Et donc, on voit dans ce verset que le but de Dieu est de faire de nous des gens qui sont sur la terre, pouvons marcher légers et heureux. Ça ne veut pas dire que tout va bien dans notre vie, mais vous savez qu'on peut être heureux sans forcément que tout soit à 100% comme on aurait souhaité. Quand les gens passent par une vie difficile, par un temps difficile, par des temps de stress, effectivement, généralement, on sait comment aller très vite se réfugier en Dieu. On sait comment aller vers le Seigneur et lui dire, écoute, décharge-moi. C'est vrai ou pas? Généralement, on court à lui, on dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides là. J'ai besoin que tu allèges la charge parce que c'est too much. Quand ça va mal, quand il y a une pression extérieure, on sait comment se débarrasser des poids qu'on se traîne. Mais il y a d'autres choses qui peuvent nous charger. Il n'y a pas que les situations difficiles, il n'y a pas que les situations de stress qui peuvent nous charger. Vous savez, un cœur peut être chargé à cause de ce qu'il renferme. Et de quoi je parle? De ces choses qu'on a dans le cœur et auxquelles on ne veut pas trop penser. De ces choses sur lesquelles on ne veut pas trop s'arrêter. De ces choses qu'on n'ose pas parler aux autres, qu'on n'ose pas se parler à soi et qu'on n'ose pas parler à Dieu. Est-ce que je suis seule? De toutes ces choses dont parfois on a été victime, parfois ce sont des situations qui nous sont arrivées, parfois c'est parce qu'on a été coupable de certaines situations, et toutes ces choses-là occupent de l'espace parce que dans le fond, si on était honnête avec nous, on comprendrait qu'elles ne sont pas vraiment clôturées et qu'elles vivent encore d'une certaine manière parce qu'elles occupent cet espace dans notre cœur. Ces choses que l'on se traîne, ces choses qui chargent notre cœur, notre vie, il faut qu'on s'en occupe quand elles sont révélées par le Saint-Esprit parce que, mes amis, elles vont restreindre nos choix. Elles vont restreindre notre liberté, elles vont restreindre même nos relations avec les uns et les autres. De quoi je parle? Et alors, ce qui est génial, c'est que tout le monde est concerné. Hein. D'une manière ou d'une autre, si on est honnête avec nous, on va reconnaître qu'il y a des boulets qu'on porte. Seulement, ils sont tellement bien cachés et on n'en a parlé à personne, il n'y a que nous qui savons, il n'y a que toujours cette petite phrase qu'il a dite, ou cette scène que j'ai vue, ma réaction que je n'ai pas aimée, sa réaction que je n'ai pas aimée, la déception, de quoi je parle? Je parle par exemple, du sentiment d'infériorité qui depuis des années me titille quand je suis dans certaines situations de ma vie. De quoi? D'une offense que je n'ai jamais réussi à lâcher dans mon cœur. Une offense peut-être vis-à-vis quoi? De mon conjoint? Peut-être de mes enfants? Peut-être de mon pasteur? Qui aujourd'hui empêche que je sois totalement... Alors, écoutez bien, alors que ma situation devrait prospérer avec cette personne, elle, ce que j'ai gardé dans mon cœur, ce que j'ai caché dans mon cœur, aujourd'hui empêche que cette relation soit libre. Ça peut être quoi? Une sale habitude. Une sale habitude que je n'ose pas parler. Une sale habitude que je n'ose pas partager avec quelqu'un de spirituel, de peur du jugement. Ça peut être quoi? Qu'est-ce que sont ces boulets qu'on se traîne? Ça peut être une histoire personnelle difficile que j'ai jamais osé révéler par peur du jugement. Ça peut être quoi? Peut-être un divorce, un décès que je dis avoir bien digéré, mais qui en fait a créé en moi une déception et qui me rend amer. Vous savez, quelqu'un qui est amer, c'est quelqu'un qui a caché quelque chose en lui. Il n'y a aucune raison d'être amer si on a laissé la parole du Seigneur nous laver. L'amertume est un signe qu'il y a quelque chose qu'on porte en soi. Décontractez-vous, hein, ça va s'améliorer. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut faire un poids dans notre vie? Ben parfois, ce que le Saint-Esprit nous a dit de faire et qu'on ne fait pas. Ça aussi, tant qu'on n'obéit pas, je suis la seule ou pas? C'est en nous, c'est là. Et juste, on en est conscient. Je parle des choses dont on est conscient, qui ont un poids sur notre conscience. Alors, ce ne sont pas forcément des choses graves, attention. Ce n'est pas forcément des choses graves, mais ça peut l'être. Mais qu'il semble, et je dis bien semble, plus simple d'ignorer, peut-être ignorer à cause de nos peurs, de notre paresse, de notre orgueil, de nos douleurs parfois. Des fois, il y a de vraies choses légitimes qui font qu'on préfère ignorer ce que l'on connaît dans notre cœur, si on est honnête. Et qu'il semble plus simple d'éviter. Ces choses qu'il semble plus simple d'éviter, en d'autres termes, qu'il semble plus simple de fuir. Vous savez, un jour j'ai entendu Patsy Caminiti qui racontait qu'elle avait un jeune homme qui était venu à Christ et il aimait le Seigneur, mais il aimait le Seigneur, il était en feu. Et il courait sa course avec le Seigneur. Et au bout d'un certain moment, elle a observé et ce jeune homme était devenu très, très fermé, très taciturne, presque agressif. Ce qui s'est passé, c'est qu'en discutant avec lui, elle s'est aperçue qu'il y avait quelque chose que le Seigneur lui avait dit de faire. Et littéralement, il était en train de se débattre avec. Mais parce qu'il était jeune en Christ, il ne savait pas qu'en faire. Et plus il laissait la chose être sur son cœur, plus son cœur devenait lourd. Vous savez, on confesse à tous égards, je prospère comme l'état de mon âme. Mais vous savez, si on veut prospérer, si on veut être libre, si on veut être des gens pleins de vie, libres comme un ballon, eh bien, il va falloir s'occuper de ses poids. Il va falloir accepter d'arrêter d'avoir peur de ce qui nous dérange, de ce qui nous handicape et de ce qui nous restreint. Il y a une chose que je sais, c'est qu'on ne peut pas fuir et vaincre à la fois. Cette équation n'existe pas. Demandez à Abraham, demandez à Adam et Ève s'ils ont expérimenté ça. Alors ce message, j'ai commencé à le préparer, c'était au mois d'août, ça a commencé déjà à venir. Et puis hier, quand j'ai commencé à le préparer, J'avais pris des notes et tout ça. Et puis, oh, je me suis aperçue, la pelouse, elle était haute. Oh! Et je me dis, barbe, il va pleuvoir. Il faut absolument que j'arrête d'étudier et je vais aller faire la pelouse. 3 heures de pelouse. Hein. Alors, après le message, ou vous serez content que j'ai lâché, que j'ai accroché dans la tondeuse, ou vous serez désolé, je ne sais pas. Mais en toujours est-il que quand je suis dans ma salle de bain ou quand je prends la pelouse, alors, ce n'est pas que je la recherche, la tondeuse, mais l'Esprit de Dieu parle. Et le Saint-Esprit m'a parlé concernant ces choses. Et ça, c'est une des choses qui m'a dit, on ne peut pas fuir et vaincre à la fois ces montagnes. La Bible nous dit clairement que si on veut vaincre une montagne, il va falloir faire face. Donc voilà, vous avez le produit de la tondeuse. Demandez à Adam et Ève, qui sont les premiers de l'humanité, s'ils n'ont pas pratiqué ce sport qu'est la fuite. Ils ont bien pratiqué, on va voir ça ensemble. Ce sport, et je vais vous rassurer, je vais me rassurer, est un sport que tout le monde pratique. Il est commun, mieux que le football, pourtant qui est populaire, mais ce sport de ne pas vouloir faire face, de ne pas vouloir voir les choses en face, est un sport qui est pratiqué à très haute, comment on peut dire, niveau. Et je crois réellement que, à vrai dire, c'est tellement un haut niveau qu'il concerne tous les hommes. Pourquoi ? Parce qu'on trouve ce problème dès qu'on a trouvé l'humanité. Dans le jardin même d'Éden, il y a eu ce symptôme de fuir. Et si ce problème s'est trouvé dans le jardin d'Éden, je vous garantis, mes amis, il concerne l'humanité entière. Et c'est une des premières pièges dans lequel l'homme est tombé. Alors, on va regarder ensemble comment ils ont pratiqué ce sport. Vous voulez voir avec moi ? Genèse 3, 7. Je crois que j'ai apporté la souris, c'est pas agréable. La souris, mais non, j'ai pas barbe. Ouais, je crois pas que j'ai la souris. Regardez avec moi Genèse 3, 7. Qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit ici, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent. Il y a une autre version qui dit, oh cool, il y a une autre version qui dit, je ne sais pas, c'est ce que va, c'est pénible ça, voilà, nickel. Il y a une autre version qui dit, ils prirent conscience, ils se rendirent compte, ils reconnurent. C'est ça que disent les différentes versions que j'ai vérifiées. Ici, on est quoi ? Ici, on est dans le contexte, c'est quoi ? Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Il y a eu un problème. Ils ont été roulés. Ils se sont laissés rouler dans la farine par le diable. Et ils viennent juste maintenant de réaliser qu'il y a un couac avec eux. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au lieu de laisser, de se saisir, écoutez bien, au lieu de se saisir de ce couac, du fait qu'ils ont réalisé qu'il y avait un couac, au lieu de s'en saisir pour que Dieu fasse quelque chose dans leur vie, eh bien, ils ont préféré ignorer. Ils ont pris le parti d'ignorer ce dont ils étaient conscients. Mes amis, de quoi sommes-nous conscients ? Et je dis, c'est pas de gros. Je suis pas là pour dire, ouais, on a de grosses choses à régler. Non. De ces petites choses ou de ces grandes choses que le Saint-Esprit a révélées, pour lesquelles il a ouvert nos yeux, que l'on sait pertinemment au fond de nous. Peut-être que c'est cette dispute d'il y a des années. Là, on a été tellement déçus. Là, on s'est tellement voulu. Et cette dispute revient. Et à vrai dire, elle a teinté notre personnalité. Et le Saint-Esprit nous rappelle gentiment, parce que c'est un gentleman, le Saint-Esprit nous le rappelle et nous, on voit très bien, mais on décide d'ignorer. Voilà comment ils ont pratiqué ce sport. On voit comment, pour la première fois, l'humanité a appris à fuir. Alors, quand je dis fuir, mes amis, vous pensez à quoi ? Quand on dit fuir, généralement, c'est partir en courant, non ? Quelqu'un qui fuit, hé, t'es où là ? Non. Il y a la définition de fuir veut dire quoi ? Veut dire quitter effectivement, rapidement, un lieu pour échapper à une menace ou un danger réel ou supposé. Mais la deuxième partie de la définition, c'est ne pas faire face à quelque chose, chercher à y échapper. C'est exactement ce qu'ils ont choisi. Adam et Ève, ils ont choisi d'échapper à ce qu'ils savaient pertinemment, à ce que leurs yeux avaient vu. Pour certains, c'est les yeux. Parfois, ce sont les oreilles. Le Saint-Esprit parle et il va nous parler de choses. Il va nous révéler certaines choses. Mes amis, quand le Saint-Esprit révèle quelque chose, ce n'est jamais pour la mort. Il a toujours en tête la vie. Il a toujours en tête la victoire. Il a toujours en tête ce qu'il rêve de faire avec cette écharde que vous avez, que j'ai dans la chair. Quasiment tous, sur un sujet ou un autre, mes amis, on joue parfaitement, on connaît les règles du jeu et on joue parfaitement avec ce jeu. Ah, bien sûr, on n'est pas parti en courant. On n'est pas parti en courant de la relation que j'avais avec cette personne. Non, seulement, depuis ce temps-là, mon cœur fait du surplace avec cette situation. J'ai choisi, pourquoi ? Parce que j'ai choisi de laisser ça en l'état, pas vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de moi-même, cette situation. Est-ce que ça va? J'ai décidé d'ignorer ce que le Saint-Esprit a commencé à révéler dans mon cœur. Ça peut être une sale habitude, ça peut être quelque chose, vous avez du mal à faire certaines choses, ça peut être n'importe quoi. Toute chose que le Saint-Esprit a commencé à révéler dans notre cœur. Quand on fait du surplace dans son cœur, parce que l'on ne veut pas faire face à ce que le Saint-Esprit nous a dit, alors parfois c'est légitime, hein? Parfois c'est à cause de nos cœurs, de nos peurs, parfois c'est pour le confort de la vie, parfois c'est à cause de la paresse, on ne veut pas se bouger, on n'a pas envie, on n'a juste pas envie de sortir de notre zone de confort. Parfois c'est par orgueil, ce qu'on ne réalise pas. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui me l'a montré. Notre croissance spirituelle en sera affectée. Alors, bien sûr, vous savez, est-ce que vous croyez que Adam et Ève ont dit cache? Non, mais attends, moi, c'est bon, quoi. Tu m'as montré, effectivement, le couac. Non, mais alors, ça ne m'intéresse pas du tout. Non, non, non. Est-ce qu'ils l'ont dit aussi cache? Est-ce qu'ils ont formulé le fait qu'ils allaient ignorer ce dont le Saint-Esprit leur parlait? Non, et nous non plus, on ne fait pas la même chose. C'est très rare qu'on dise au Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous dise quelque chose, c'est très rare. Non, mais j'en ai rien à faire. On leur dit, vous lui dites ça, hein? On ne lui dit pas ça. Oh non, 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 non. Comment? Non, absolument pas comme ça. Mais à la finalité, c'est qu'on dit ça. On va voir ensemble comment ils se sont empêchés de regarder en face le bas qui blessait. Honnêtement, quand le Saint-Esprit a révélé un point qu'il veut nous faire voir, qu'il veut nous voir régler, mes amis, il va nous donner des occasions de les régler. Et ça, les occasions, il va nous donner les occasions et c'est à nous de décider ce qu'on va en faire. Alors, comment ont-ils fait? Eh bien, regardez en Genèse 3:7. On ne va pas utiliser beaucoup d'écriture. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec juste quelques versets, le Saint-Esprit peut largement nous enseigner plein de choses. Ça, je trouve ça extraordinaire. Genèse 3:7. Comment ont-ils fait pour ignorer les injonctions? Alors là, ce n'est plus qu'une injonction, mais ce qui est monté dans leur cœur. Parce que, à noter, Adam et Ève, ils n'ont pas entendu une voix à ce moment-là. Quand ils ont réalisé, dans les Écritures, rien ne nous dit que Dieu a parlé. Non. Je pense que ce n'est pas ça. Je pense qu'en eux, ils ont pris conscience. D'ailleurs, c'est ce que la Bible nous dit. Ils ont pris conscience. Et on voit que qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont pris conscience? Eh bien, Genèse 3:7 nous dit, « Ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des pagnes. » Et en hébreu, « coudre », c'est le mot « tefar ». Et le mot, alors, je ne sais pas si je prononce bien, Le mot tefar veut dire coudre ou fabriquer. Ce mot me dit qu'ils ont fabriqué, quand ils ont saisi ce que Dieu disait, dans leur cœur, ils ont fabriqué quelque chose qui allait leur permettre de faire comme si, de faire genre. J'ai rien vu. Genre. Ils ont fabriqué quelque chose qui allait permettre, qui allait leur permettre de se convaincre. Il n'y a pas de problème. Tout va bien, ma chérie. Il n'y a pas de problème. Ils ont fabriqué quelque chose qui allait, qui soi-disant allait gommer les signes extérieurs dérangeants. Et quand il est dit « ils ont fabriqué », ça veut dire qu'ils ont dû passer du temps à réfléchir. Alors, peut-être pas 15 ans pour un pagne, hein, on l'espère, mais ça veut dire qu'ils ont impliqué, ils se sont donnés à trouver une autre solution. Combien de fois, quand le Seigneur nous parle de ces petites choses, on essaie de trouver un substitut. Vrai ou pas, ou je suis la seule? Absolument. Réellement, qu'essayait-il de masquer? Dans cette situation, qu'est-ce que Adam et Ève essayaient de masquer? Leur corps, très honnêtement, je ne pense pas. Peut-être leur corps, mais à vrai dire, je pense qu'il y avait plus que leur corps qu'ils essayaient de masquer. Ils essayaient de masquer, franchement, mais ça, j'ai super bon, quoi. Ils essayaient de masquer les sentiments qui les dérangeaient. Ils essayaient de masquer la honte, ils essayaient de masquer la gêne qu'ils avaient par rapport à ce qu'ils venaient de comprendre de la situation. Ils essayaient d'ignorer les sentiments dérangeants et éventuellement, ils essayaient d'ignorer peut-être les conséquences qu'ils voyaient se profiler. Plusieurs fois dans nos vies, on n'a pas voulu bouger parce qu'on n'a pas aimé ce que ça allait engendrer en nous et on n'a pas aimé ce qu'on savait qu'on allait devoir faire. C'est-à-dire, par exemple, le Seigneur m'a convaincu que je devrais demander pardon à une personne. Et je sens le Saint-Esprit me le dire. Mais parce que je n'aime pas le fait que je doive aller voir la personne, je n'aime pas la décision que je vais devoir prendre, eh bien, je dis non, mais à vrai dire, c'est bon, tout est réglé. Ça peut être ça ou autre chose. Hein. Vous savez, il y a des années, j'étais toute jeune, et je n'aimais pas, à vrai dire, je ne faisais pas de sport. Et à chaque fois qu'on me disait, mais tu viens, on va faire du sport, viens. Et je disais, non, mais tu sais, moi, j'aime pas le sport, non, j'ai pas de problème avec le sport, mais c'est vraiment pas mon truc. À vrai dire, vous savez quoi? Je savais très bien que c'était pas mon truc, effectivement. Pas parce que je n'aimais pas le sport, mais parce que réellement, si j'avais été honnête avec moi, je vous aurais dit, je n'aime pas le sport parce que je me sens comme une grosse nulle sur un terrain de sport. Seulement, mais c'était ça la réalité, seulement, je n'avais pas la transparence avec moi-même de me le dire. Donc, je n'avais pas la transparence. Je n'osais pas m'avouer que j'avais ce complexe d'infériorité qui... Il n'était pas que là, il était ailleurs aussi, mais qui se révélait à cet endroit, donc je n'avais pas l'honnêteté, la transparence d'être moi-même en face des gens. À noter que pour se masquer la vérité à nous-mêmes, vous avez noté qu'on n'a pas besoin de l'intervention du diable. Nulle part, une fois que le diable a fait son affaire en Éden, il n'a pas eu besoin de revenir une deuxième fois. Adam et Ève n'ont pas eu besoin de l'intervention ni du diable, ni de Dieu pour se masquer la vérité. Si Dieu n'était pas intervenu, parce qu'on va voir qu'il va intervenir, si Dieu n'était pas intervenu, je suis quasiment sûre que des années plus tard, on aurait retrouvé Adam et Ève avec toute une gamme de pain magnifique en disant non, mais il n'y a pas de problème, tout va bien. Non, non, ça va bien, ça va bien. Tout aurait été, ça aurait été bien. Non, non, il n'y a jamais eu de problème. Vrai ou pas? Et le monde est en train de fonctionner ainsi. J'ai entendu une dame à la radio et je comprends la douleur. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un, donc je comprends la douleur. Mais j'entendais, non, non, mais cette dame disait, non, mais je ne pourrai plus vivre comme avant. Et je me suis dit, à vrai dire, la douleur peut être un refuge parce qu'on ne veut pas affronter justement, faire quelque chose avec ses sentiments. Sauf que dans le monde nous dit, ah non, mais c'est normal, hein. Non, non, mais tu comprends, tu vois, tu as eu une jambe cassée, ben c'est normal, ma chérie, il va falloir que tu apprennes à marcher ainsi. Oh non, tu vas courir, mais pas aussi vite qu'avant, mais c'est ok, c'est normal, c'est la vie. Mes amis, il n'y a pas de ce genre de choses dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de malades, il n'y a pas de boiteux, il n'y a personne d'handicapé dans le royaume de Dieu. À vrai dire, à ce moment-là, vous savez ce qu'aurait été le meilleur service qu'Adam et Ève auraient dû se rendre? Ben, c'est tout simplement de se présenter tels qu'ils étaient devant Dieu. C'était venir dans un état de faiblesse tel qu'ils étaient. Comment ça se fait? Et pour l'avoir pratiqué, je sais de ce dont je parle. Comment ça se fait que certains d'entre nous n'osons pas être tels qu'on est? Vous savez, quand je me présente à Dieu tout à l'heure, quand je louais, je dis, Seigneur, viens jusque dans mes entrailles. Je te laisse, je veux. Est-ce que je dis que c'est facile? Non, parce qu'on a souvent la tendance à vouloir cacher ce qu'on n'aime pas. Mais je veux que quand je me présente devant Dieu, Seigneur, tu as accès à tout. À tout, à tout, devant, derrière, dans les entrailles. La meilleure chose qu'ils auraient pu se faire, c'était se présenter nus tels qu'ils étaient devant Dieu et oser dépasser ces sentiments si désagréables, si dérangeants. Et je ne crois pas, très sincèrement, je ne crois pas que la suite de l'histoire aurait été celle qu'on connaît. Je ne crois pas, si Dieu avait vu, parce que quand on va regarder cette histoire, pendant tout, Dieu n'a pas été après la bêtise qu'ils avaient faite, il a été après la transparence qu'ils voulaient d'eux. Partout, pendant cette histoire, on voit que Dieu s'est avancé pour eux pour essayer d'établir, de les amener à être transparents concernant ce qu'ils avaient fait, concernant qui ils étaient. Alors, et je suis quasiment certaine que le Saint-Esprit aurait fait quelque chose en leur faveur. Vous savez, Dieu, on le connaît, vous et moi, il est le Dieu de la première, la deuxième, la troisième chance. La seule chose qui... Là où ça lui est impossible, c'est qu'on n'est pas transparent. Dieu n'est pas effrayé par nos échecs. Dieu n'est pas effrayé parce qu'il nous effraie ce qu'on cache. Il n'a aucun problème avec ce que l'on a caché depuis des années. Il n'en a aucun, mais c'est nous qui l'avons. Et tant qu'on cache ce que Dieu est en train d'essayer d'atteindre en nous, il ne peut pas nous aider. Alors, on dit, oh ben bon, 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 bon. Ils ont fait que cacher, ils ont masqué, ils se sont masqués à eux. Ce que je veux pointer ce matin, ce n'est pas tant le fait d'avoir masqué, c'est se masquer à soi. Qu'est-ce que l'on se masque à soi? Parce que je vais vous dire, les gens peuvent parler dans votre vie. Si on se masque la vérité, on n'entendra pas ce qu'ils ont à dire. Dieu peut parler dans notre vie, si on se masque la vérité, ça peut être le meilleur des conseils, ça peut être exactement ce dont on a besoin. Si on se masque, on n'entend pas, on se bouche les oreilles. Alors, quelles ont été les conséquences de se masquer à soi la vérité? Genèse 3:8, on va continuer, ça va vous tenir le choc? Alors, vous savez quoi? La bonne chose, c'est qu'il n'y a aucune condamnation. La bonne chose, c'est que quand Dieu nous révèle quelque chose, c'est jamais pour dire espèce de petit ver, tu vas voir. Non, c'est parce que toujours, il veut nous amener dans cet endroit de liberté. C'est toujours, il a toujours en tête notre prospérité pour sa gloire. Donc, Genèse 3:8, quelle a été une des conséquences? Vous savez, se masquer la vérité, se masquer réellement les choses qui nous font mal, les choses qui nous ont blessés peut-être depuis des années, se masquer les choses qui nous blessent peut-être encore, les choses qui nous ont déçus, les choses qu'on aurait dû faire, les culpabilités, se les masquer, ce n'est jamais sans conséquence. Alors oui, notre chair va nous faire, non, mais tu vois, ça va mieux. Ah, ça va beaucoup mieux, hein. T'as mis ça dans un coin, tu vois ta vie, tu vois que t'as bien fait d'ignorer. C'est faux. C'est faux. Aussi longtemps qu'on, vous savez, il y a beaucoup de choses, on peut avoir des choses dans notre cœur et qui n'ont pas de poids, des choses terribles dans notre cœur qui n'ont plus de poids. On en a le souvenir, mais n'ont plus de substance. Si ces choses n'ont plus de substance, elles n'ont plus de puissance. Tant que les choses que je garde dans mon cœur ont de la substance, elles ont de la puissance. T'as bien dit, pasteur, t'as bien dit. Quelles ont été les conséquences? Regardez, Genèse 3:8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres. Quelle a été la première conséquence? C'est qu'ils se sont éloignés eux-mêmes. Personne n'a eu besoin de les pousser. Ils se sont éloignés eux-mêmes de l'aide qu'ils auraient pu recevoir de Dieu. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Dieu est venu quand même vers eux. Vous avez vu? Dieu, il savait, d'après vous, il a découvert, il savait pertinemment ce qui s'était passé, il savait exactement où ils étaient, il savait exactement ce qu'ils cachaient, et malgré ça, Dieu est venu quand même vers eux. Mais voyez-vous, c'est leur propre manque de transparence envers eux-mêmes qui a été le problème. Et c'est leur propre manque de transparence, ne pas admettre, qui a été en fait la raison, la source de leur séparation. À vrai dire, leur manque de transparence les a volés. Pourquoi? Parce que voyez-vous, dans cette situation, s'ils avaient accepté de venir, Seigneur, ouais, je reconnais, j'ai un problème. Oui, effectivement, j'ai fait une grosse boulette. Bon, on parlait d'une boulette. Vous savez ce qui se serait passé? C'est dire qu'ils auraient découvert Dieu tel qu'ils ne le connaissaient pas encore. Qu'est-ce que le fait de cacher, de se cacher de Dieu, a masqué de Dieu dans notre vie? Souvenez-vous, quand vous avez fait preuve de transparence vis-à-vis de vous-même, donc vis-à-vis, vous avez pu en faire vis-à-vis de Dieu, est-ce que vous vous souvenez d'avoir expérimenté Dieu? Peut-être l'amour tel que vous l'aviez jamais, l'acceptation de Dieu tel que vous l'aviez jamais vu auparavant. Voyez-vous, le manque de transparence les a volés. Le manque de transparence envers eux-mêmes, non seulement les a volés, mais a altéré aussi leur capacité à prendre de futures décisions. Oui, parce que au moment où ils ont, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu se découvrir devant Dieu, être vus tels qu'ils étaient devant Dieu, qu'ensuite ils sont partis se cacher. Non mais attendez, devant Dieu, ils sont partis se cacher parmi les arbres. Franchement, c'était pas ridicule cette histoire. Vous êtes dans le jardin d'Éden et on va se cacher pour échapper à Dieu devant des arbres. Ah ouais, d'accord, ça va te cacher ça. Mais le fait est, c'est que parce qu'ils n'ont pas voulu être vus tels qu'ils étaient, ils n'ont pas voulu que Dieu les voie tels qu'ils étaient, ils ont pris la mauvaise décision d'en rajouter et d'aller se cacher. C'est la deuxième décision qu'ils avaient tout faux. Et voyez-vous, quand on commence à se masquer à soi-même la vérité, les prochaines fois qu'on aura l'occasion d'être honnête envers nous, il y a de grandes chances qu'on n'accepte pas. Parce que voyez-vous, quand on est malhonnête vis-à-vis de nous, quand on n'est pas honnête vis-à-vis de nous, à vrai dire, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à fuir la pression que ce qui nous dérange met dans notre vie. Et c'est un échappatoire, et le fait de pouvoir échapper, si on a pris l'habitude de à vrai dire, j'ai quelqu'un dans mon entourage, vous ne le connaissez pas, donc je peux parler très clairement de lui. Il n'écoutera pas la cassette, enfin l'enregistrement, la cassette. Il n'écoutera pas l'enregistrement, mais je sais. La personne, dès qu'elle sent venir la pression, dès que, à vrai dire, c'est quoi? La pression mise sur moi. Parce que l'histoire, pourquoi on n'est pas honnête? Parce qu'on on sent la pression qui vient sur nous, pas sur le voisin. Ça ne nous dérange pas du tout que le voisin, il est là, que le Saint-Esprit, tu parles au voisin. Ça ne me dérange pas, il en a bien besoin. Par contre, quand c'est nous, que le Saint-Esprit révèle quelque chose, regardez, c'est qu'est-ce que je fais avec? Oh! Je déplace la solution. Je déplace ce que le Saint-Esprit essaie de faire. Vrai ou pas? Absolument. Beaucoup de gens tombent dans ce piège, vraiment, et honnêtement, je crois. Vous savez pourquoi il y a des gens qui sont malheureux dans un mariage? Et on pourrait prendre plein de situations. Parce que quand ils ont rencontré la Jeannette, ils savaient pertinemment dans leur cœur que ce n'était pas la bonne Jeannette. Seulement, ils n'avaient pas, ou le Jeannot, ils n'avaient pas la pression d'être mariés. La pression de ne pas rester seul a fait son œuvre. Et au lieu d'être honnête en disant, tu sais quoi, si je suis honnête, franchement, ce n'est pas du tout celle que j'aurais rêvé. Ce n'est pas du tout cette personne que j'ai rêvé. Ils ont été avec ça. Ils ont fait un pagne. Et bon, ça, mais c'est vrai, le nombre de personnes. Ça va toujours? Réellement, mes amis, est-ce que l'on peut vraiment cacher quelque chose dans son cœur à Dieu? Alors, pourquoi est-ce qu'on s'évertue à essayer de l'embrouiller? Parce que c'est vraiment ça. Hein. On s'embrouille pour mieux l'embrouiller. OK. Deuxième conséquence. Merci. Deuxième conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu qu'à partir du moment où ils se sont cachés à eux-mêmes la vérité, ils ont commencé à ne pas prendre de bonnes décisions. Ils ont commencé à partir dans une direction, à s'éloigner de la décision, de l'aide qu'ils auraient dû avoir. Deuxième conséquence, regardez Genèse 3, 11, et alors là c'est extraordinaire. Genèse 3, quel était le fait qui n'est pas voulu être confronté à la vérité, qu'est-ce que ça a engendré? Genèse 3, 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous savez ce qui est en train de se passer? À vrai dire, vous avez remarqué que Dieu dit, mais Adam, mais tu as fait quoi? Tu et tu et tu. Et alors là, on est en plein scénario. Si on écoute l'explication d'Adam, il n'est même plus sur la photo. Dieu pointe, et tu, mais ce n'était pas accusateur. Il voulait juste lui demander, il voulait juste l'amener dans une situation où il a dit, bah oui, j'ai. Oui, j'ai. Et le Adam, qui avait déjà s'était fait un pagne et qui s'était embrouillé lui-même, quand il a eu l'occasion d'être transparent, eh bien, il l'a embrouillé. Et il est parti dans une explication, très honnêtement, qui ne tient pas la route. Parce qu'on lui dit « tu » et il n'est même plus sur image. On a l'impression qu'il n'existe, qu'il n'était pas dans le jardin, d'ailleurs. Tout ça, ça s'est fait sans lui. Et étonnant, deuxième point, c'est étonnant de voir comment Adam s'est débrouillé pour dévier la conversation. Ça vous est jamais arrivé? Quelqu'un vous demande quelque chose, on n'a juste pas envie d'être honnête, ou on se demande quelque chose, on est dans la présence de Dieu, et hop, il y a le sujet qui vient dans notre esprit. Dites-moi que je ne suis pas seule. Il y a le sujet qui vient dans notre esprit, et c'est bizarre, on commence à pleurer. Oh, Dieu merci, j'y suis plus. Mais où le Saint-Esprit nous parle d'un sujet, et puis hop, on lui parle d'un autre problème. Ça vous est déjà arrivé? Une personne veut parler de quelque chose, Et vous lui demandez, alors, t'as fait ça, c'est incroyable. Comment, au lieu de dire, non, je ne l'ai pas fait, comment la personne va prendre la tangente et vous nous parlez, mais alors d'autre chose. Et c'est ce que Adam est en train de faire. Le Seigneur lui dit, mais alors, es-tu? Et il est en train, gentiment, sans faire, vous savez, sans faire, il lui a pas dit, non, mais tu sais, cache, non. Sans faire, restant très poli, en restant très comme il faut, il a commencé à diriger son explication vers sa femme. Sa femme, elle s'est dit, attends, moi je reste pas là. Elle a dirigé vers le serpent. Le serpent, il s'est fait écraser parce qu'il n'y a plus personne derrière lui. Donc, il n'y a plus de personne à accuser. C'est lui le dindon de la farce. À vrai dire, ils ont été tous les trois le dindon de la farce. Vous savez, fuir, bien sûr, ça peut être ignoré purement et simplement, mais ça peut être aussi, on fuit, une des manières de fuir, c'est répondre uniquement ce qu'on a envie quand quelqu'un nous pose une question. C'est quoi? C'est simplement éviter, par exemple, un sujet quand on nous parle du sujet. Et ça, c'est une autre manière de fuir, et c'est exactement ce que Adam a fait. Alors, l'histoire, la deuxième conséquence, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il a commencé à perdre le chemin de son cœur. Il a commencé à accepter les raisonnements de son intelligence. Quand on a commencé à ignorer notre cœur, notre tête va nous donner des explications qu'on voudra bien croire. L'être humain a cette capacité incroyable à se convaincre, à se dire « oui, non, mais c'est vrai que… »« Non, mais en fait, tu comprends que… » C'est ce qu'il a dit Adam. Et quand on commence à accepter ce mode de fonctionnement, eh bien, on va, peu à peu, on entendra beaucoup moins ce que notre cœur a à dire. Peu à peu, plus on pratique ce mode de raisonnement, moins on pratique notre cœur. Il y a des endroits, certaines personnes, elles ont tellement fermé les portes de certains endroits de leur cœur qu'à vrai dire, elles ne savent même plus comment y retrouver, y aller. Ce sujet, on ne peut même pas l'aborder parce que c'est fermé. À noter deux choses. Dieu a, pendant tout ce temps, et il fait la même chose avec nous, pendant tout ce temps, il a essayé de tendre des perches. Quand il est venu dans le jardin, il disait, mais vous êtes où? Vous êtes où? Ouh, vous êtes où? Et puis après, il a pas attrapé avec une batte de baseball. Non, non. Après, ils ont dit, mais alors? Il a dit, mais alors, tu as fait quoi? Mais comment ça s'est passé? Il a essayé pendant tout ce temps d'amener Adam et Ève à être transparents, à admettre que ce n'était pas ça l'histoire. Si on n'accepte pas de faire face à nos faiblesses quand le Saint-Esprit nous les révèle, au bout d'un moment, ah ça c'est le Saint-Esprit qui m'a dit pendant que j'étais avec ma tondeuse, si on ne fait pas quelque chose des faiblesses qu'il nous montre, ces faiblesses vont se transformer en défaillances dans notre vie. De faiblesses, elles vont être des défaillances. Une faiblesse, vous savez, quand vous avez par exemple une faiblesse sur un genou, vous devez courir et vous avez une faiblesse sur un genou, ben, généralement quand ce n'est qu'une faiblesse, on peut compenser, vrai ou pas? Quand c'est une défaillance, normalement, il n'y a plus grand-chose à compenser. Parce que là, c'est un vrai manque, c'est une vraie absence d'eux. Et quand le Saint-Esprit essaie, pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'aborder ce que le Saint-Esprit veut aborder? Franchement, on le connaît suffisamment pour pouvoir être honnête devant lui. Mais vous savez, s'il essaie de nous aider, parce que pendant tout ce temps-là, il a essayé de les aider. Et à un moment, à force de manquer de transparence, et je répète, envers eux-mêmes, c'est devenu une vraie défaillance parce que Dieu ne pouvait plus rien faire pour eux. Alors, c'est étonnant, non? C'est vrai ou pas? C'est étonnant comment le fait de se masquer la vérité à soi-même conduit, est-ce que vous avez noté ce qui s'est passé, conduit à accuser les autres? Ah là, dis donc, elle a dû être contente, Ève. Hein? Je ne sais pas si elle connaissait Adam sous ce jour-là, mais très honnêtement, quand elle a dû sentir la charge qui mettait sur elle pour juste ne pas être remis en cause, ça a dû la surprendre, non? Attends, il vivait l'amour parfait, c'était, je ne sais pas, c'était justement Adam avant la chute, et il était le plus beau des garçons, le plus intelligent, le plus prévenant, le plus, celui qui l'aimait de façon parfaite, et d'un seul coup, il y a un couac, et tout ça pour échapper, elle réalise qu'il est en train de l'accuser. Il tient pas, il n'est pas ce genre d'homme qui dit, ouais, c'est exactement ça. Ouais. Il n'est pas ce genre, elle n'est pas, et elle va faire la même chose, elle est un peu moins, elle, parce que vous écoutez son explication, c'est un petit peu différent. Mais elle n'est pas non plus ce genre de femme qui dit, c'est moi. Ouais, voilà, j'en suis désolée, c'est moi, et je vais régler le problème. Je vais faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils n'ont jamais dit à Dieu, écoute, dis-moi, comment est-ce qu'on peut arranger ça? Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur, pour arranger ça? Parce que de toute façon, ils n'auraient rien, eux, pu faire. Mais ils n'ont même pas eu le réflexe de dire, tu sais quoi, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ensemble de cette situation? C'est étonnant de voir comment se masquer la vérité à soi a affecté non seulement la relation qu'ils avaient avec Dieu, parce que ça a affecté la relation, non? On est tous d'accord sur ce coup-là, je crois. Le fait de ne manquer de transparence a affecté la relation qu'ils avaient avec Dieu, mais à vrai dire, ça a affecté la relation qu'ils avaient avec les autres. Vous croyez que la relation entre Adam et Ève était juste la même avant ou après? Je ne crois pas du tout. Et tout ça aurait été réglé s'ils avaient accepté de juste constater et dire « Seigneur, interviens ». Vous savez, la Bible nous dit, et j'ai presque pratiquement terminé, la Bible nous dit en Deutéronome 30, 19, l'honnêteté, mes amis, et vous savez, quand j'ai prêché, je me suis prêché à moi, je dis, où est-ce que tu en es honnête, dans ton honnêteté? Et je veux l'être. Et franchement, l'honnêteté, on s'astreint à l'être. Et là, on s'astreint à être honnête envers soi-même. L'honnêteté envers soi-même n'est pas quelque chose qui est juste légère, facile à pratiquer. C'est quelque chose qui est très difficile. Si on veut vraiment être honnête avec soi, ça va demander du courage. Et le Saint-Esprit a dit, être honnête est un choix. Deutéronome 30, 19 nous dit, « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Mes amis, si ce n'avait pas été possible de choisir l'honnêteté, parce que c'est la vie, l'honnêteté, eh bien, il n'aurait pas écrit ça. Ça serait injuste, afin que toi, que tu vives, toi et ta postérité. S'il n'était pas possible de choisir d'être transparent avec soi-même, je vous garantis que Dieu n'aurait pas marqué ça. Parce qu'il aurait été injuste, ce serait un injuste Dieu. Et maintenant, je vais vous lire quelque chose que Viktor Frankl, et on va finir avec ça, c'est un psychologue viennois survivant des camps, qui a perdu père, mère, frère et femme enceinte, et qui a écrit ceci. Et pour montrer que même quelqu'un, alors je ne sais pas s'il connaissait Dieu ou pas, mais même quelqu'un dans le monde, bon, il était juif, donc il avait certainement les Écritures, mais ce qu'il dit du fait de choisir. Parce que, vous savez, souvent, « Ah non, mais je ne peux pas. » Si, tu peux, bien sûr que tu peux. Qu'est-ce qui nous empêche d'être honnête? Ah ben, bien sûr, ça veut dire ne accepter de voir, d'aller au travers de ces sentiments désagréables. Mais mes amis, il y a tellement de vie derrière tout ça. Si seulement on réalisait combien de liberté quand on a osé confronter nos plus grands défis, mes amis, on gagne en liberté. Et les chrétiens, je crois que le Seigneur veut... Écoutez, sans des gens libres, l'évangile ne pourra pas être démontré. C'est aussi simple que ça. On dit, ah oui, Seigneur, manifeste-toi, manifeste ta gloire. Mes amis, la gloire, elle va passer par nous. Dieu nous a dit qu'il nous a élus pour manifester sa gloire. Elle va passer par nous. Mais si on a un cœur qui est encombré de mille choses et qu'on a un cœur qui est chargé de ce qu'on n'a pas envie d'en voir et d'entendre, ça va être très difficile de laisser passer la lumière. Rien de plus troublant de voir quelqu'un qui est libre, qui est dans la paix, qui est heureux. Rien de plus troublant. Parce que pas la paix extérieure, pas la paix, non, celle qui émane de l'intérieur. C'est troublant. Comment est-ce qu'ils font? Et c'est exactement. Alors, pour vous parler de la décision, Franquin a écrit. Ceux qui ont vécu dans les camps se souviennent de ces prisonniers qui allaient de baraque en baraque, consoler leurs semblables, leur offrant les derniers morceaux de pain qui leur restaient. Même s'il s'agit de cas rares, ceci nous apporte la preuve qu'on peut tout enlever à une personne excepté une chose, la dernière des libertés humaines, celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve. Et là, j'ai envie de rajouter, décider de sa conduite d'honnêteté. Et nous avions constamment à choisir. Il nous fallait prendre des décisions sans arrêt, des décisions qui déterminaient si nous allions nous soumettre ou non à des autorités qui menaçaient de supprimer notre individualité et notre liberté d'esprit, qui déterminaient si nous allions devenir ou non, écoutez bien, le jouet des circonstances et renoncer ou non à notre liberté, à notre dignité, pour devenir des prisonniers idéaux. De ce point de vue, les réactions psychologiques du prisonnier du camp de concentration ne sont pas uniquement l'expression de certains facteurs physiques et sociologiques. Même si les conditions telles que le manque de sommeil, une alimentation inadéquate et plusieurs formes de tensions psychologiques peuvent laisser entendre qu'il était inévitable qu'ils se laissent aller à certains comportements regrettables. Il est clair, en dernière analyse, que ce que devenait le prisonnier était le résultat d'une décision intérieure et non celui des circonstances auxquelles il était soumis. Toute personne peut, même dans des circonstances particulièrement pénibles, choisir ce qu'elle deviendra, moralement et spirituellement. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement ça. On est libre, mes amis. Rien ne peut nous empêcher d'être la personne qu'on voudrait être. Libre l'aide de sa terre mère, libre de cette histoire. Et je vais finir par une dernière écriture, Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui, écoutez bien, n'aura point hâte de fuir. Absolument. Celui qui dit, tu sais quoi, Seigneur, je vais régler ce problème en m'appuyant sur ta grâce, en m'appuyant sur ton aide, en m'appuyant sur toi, et je vais m'en débarrasser parce que ce coup-ci, c'est bon. Je ne vais pas le trimballer pendant plus d'années que ça. D'accord ? Amen.